Et j'ai lu avec beaucoup de plaisir le roman graphique Johan Benoit de Megan Dernford. J'espère que je prononce bien. Bonjour, Megan.
Oui, Megan.
Megan,
oui.
Megan. Oui. Bonjour, Megan.
Bonjour.
Et Stéphane Lemardelé, qui n'est pas avec nous, qui a illustré le roman graphique. C'est un très beau travail sans l'IA, l'intelligence artificielle.
Non,
il s'en est pas
bien
servi
sûr,
du tout.
Bien sûr.
D'ailleurs, c'est bien indiqué dans le oui. roman graphique qu'il a fait tout ça seul. Avec oui. aussi, on y reviendra sur les illustrations, mais je voulais quand même qu'on se mette un peu dans la tête, le ton de Johan Benoit, qui est une grande dame. Et avant de plonger dans votre roman graphique, on va l'écouter. Et elle parle de fraises, évidemment, les fraises qui arrivent bientôt, là. Oui.
Il y a bien des façons de les préparer. Et des fraises et de la crème, tout le monde connaît ça, il n'y a rien à dire. Mais il y a aussi bien des façons très simples et très intéressantes, parce que la fraise est aussi vieille que le monde, si vous voulez. Ça n'a pas toujours été des grosses fraises cultivées comme celle-ci. Mais les petites fraises sauvages, on en retrouve même avant le temps de la Bible, on parle des fraises sauvages, ou des petits fruits rouges sauvages, qui étaient de la fraise. Eh bien, la première recette que je vais vous faire, elle est persane. Elle est très, très vieille, mais vous allez voir, elle est très simple. Alors, elle s'aromatise au sucre, qui était aussi du sucre à l'époque, mais qu'on devait râper, et à l'eau de rose, parce que presque toutes les choses persanes ont des fleurs ou des arômes de fleurs. Là, vous allez dire l'eau de rose dans les fraises. Eh bien, l'eau de rose et la fraise, ce sont deux amis extraordinaires. Ça donne une de ces saveurs fines. Et si vous ne voulez pas que ça goûte, que vous sachiez, que quelqu'un dit, si vous voulez, j'ai mis de l'eau de rose dans mes fraises. Les fraises goûtent l'eau de rose. N'en mettez que quelques gouttes. Ça suffira pour parfumer et ça fait toute une différence. L'autre grand ami, ça c'est l'amant de la fraise, l'eau de rose, mais le grand ami de la fraise, c'est le sucre vanillé. Et voilà une chose que les Européens connaissent bien et que nous préoccupons presque jamais. On achète de l'essence de vanille. Je n'ai rien contre l'essence de vanille, mais le sucre vanillé est beaucoup plus économique et facile à préparer.
Alors, on prend des notes. Hein? Quand on va manger des fraises, on ajoute quelques gouttes d'eau de rose ou du sucre vanillé. Quelle femme extraordinaire, une encyclopédie vivante en gastronomie. Et je me demandais, Megan, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de raconter l'histoire de Johan Benoit?
Ah, oui, d'accord. La grande question.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fascinait tant chez cette femme?
Oui, alors je dirais que c'est un peu une longue histoire, mais alors... Moi, j'aime beaucoup faire à manger, cuisiner. Et en même temps, j'aime aussi lire les romans graphiques depuis des lustres. Et alors, un jour, j'ai lu un petit article dans Le Devoir. C'était marqué que les romans graphiques sur la gastronomie et le vin sont de plus en plus populaires. Alors, je me suis dit, ah, OK. Alors, je suis journaliste, je suis réalisatrice de documentaires. J'ai quand même... beaucoup d'expérience pour la recherche et structure de du scénario mm-hmm. et tout. Et alors, peut-être je pourrais mettre à profit tous ces talents-là pour créer un roman graphique. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, évidemment, ça prend des illustrations. Je ne suis pas dessinatrice.
Non.
Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de dessinatrices très talentueuses à Montréal. Énormément. Et alors, j'ai commencé à contacter des dessinateurs. En même temps, j'ai commencé à contacter le CALQ, le Conseil des arts et de lettres de Québec. J'ai posé des questions. Petit à petit, je me suis dit, oui, je pense que ça va fonctionner. Mais sur quoi?
Vous avez trouvé votre illustrateur?
Non, pas tout de suite. Alors, mais je me suis dit, mais alors, c'est quoi le sujet?
Oui.
Parce que même si je me suis rendu compte que, OK, je pense que ça pourrait fonctionner.
Vous allez parler de nourriture?
Oui. Alors, je me suis dit, mais alors, j'habite Montréal, j'habite le Québec. Tout de suite, j'ai pensé à Johan Benoit. Et alors, je me suis dit, peut-être je vais trouver une biographie sur elle et ensuite, je pourrais comme le transformer en roman graphique.
Mm-hmm.
Mais, voilà, il n'y avait pas de biographie.
Il
n'y avait pas d'autobiographie, il n'y avait pas de film documentaire, il n'y avait pas de documentation sur sa vie personnelle. Et je me suis dit, mais alors, c'est ça, je vais le faire sur Johan Benoit parce que tout le monde connaît, voilà, sa voix, on le reconnaît tout de suite, tout le monde connaît ses recettes, ses émissions de télévision, émissions de radio. et on sait absolument rien sur sa vie personnelle. Et tout de suite, quand j'ai choisi Jeanne Benoit, alors je me suis dit d'abord, je dois faire beaucoup de recherches, énormément de recherches, parce que il n'y a pas de biographie, comme j'ai dit.
Heureusement que vous avez un métier de documentariste.
Et j'adore la recherche. Il y a des gens qui croient que je suis comme un chien de chasse. Alors, comme vraiment, j'adore chercher des informations. Et alors, ça tombait bien, n'est-ce pas?
Je comprends.
Voilà. C'est commencé comme ça. Et alors, dès que j'ai dit Jean-Benoît, c'était facile de trouver un dessinateur, un éditeur. Ouais, tout le monde s'intéressait vraiment tout de suite. Tout de suite.
Et pourquoi vous pensez qu'on n'y a rien eu sur Jeanne-Benoît?
Ah, une bonne question. Une bonne question. Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme célèbre et non pas un homme célèbre?
Oui, il y a peut-être de ça. Poser la question, c'est y répondre.
Aussi, elle était assez discrète.
Oui.
Il y a beaucoup de choses un peu hors normes. Par exemple, elle était mère célibataire.
Mm-hmm.
Dans les années 30, c'était pas quelque chose qu'on disait, n'est-ce pas?
Et alors, c'était mal vu.
Je crois que ça, c'était aussi une des raisons, parce qu'elle était vraiment discrète. Et alors aussi, elle s'est mariée deux fois. Et on ne sait jamais. On ne saura jamais, mais ce sont peut-être des idées.
Ouais.
Ouais.
Et justement, dans la BD, dans le roman graphique, parce que ce n'est pas un roman de BD, c'est illustré, mais on peut dire BD, mais
oui,
c'est plus un roman
graphique.
Oui, c'est
un peu compliqué, parce que parfois, il y a des gens qui disent un ouvrage, bande dessinée, documentaire. Il y a toutes sortes de façons pour le décrire. C'est vrai qu'un roman graphique, ce n'est pas un roman, ce n'est pas du fiction, mais... C'est compliqué un peu, mais je crois que
peut-être... En tout cas, c'est un bon livre.
Oui, merci. Mais peut-être, peut-être c'est mieux de dire ouvrage, BD, documentaire.
Ah, ouvrage, peut-être. BD, documentaire.
Peut-être c'est la meilleure façon de décrire.
OK. Alors, je prends ça en note. Et vous évoquez des éléments incertains, comme son passage à la Sorbonne.
Oui.
Paraît-il que c'est pas vrai qu'elle a étudié à la Sorbonne la gastronomie.
Et alors... Quand j'ai commencé à regarder alors les archives, j'ai commencé... Mais c'était difficile de faire des entrevues, mais quand même, j'ai réussi à trouver quelques personnes qui se...
Comme qui?
Oui, alors par exemple, quelqu'un alors, qui était une copine, alors Julian Armstrong, qui était journaliste de la Gazette et qui a actuellement, je crois, à peu près 96 ans.
C'était l'amie de Jeanne Benoît?
Oui, elle est vivante. Et alors, elle m'a raconté ses souvenirs. Elle était allée à la ferme Normouton à plusieurs reprises.
Oui, à Sutton.
Oui, elle était une copine. Alors, j'ai quand même réussi à trouver, je sais, peut-être 5-6 personnes. Ensuite, il y avait quand même des archives ici et là. Il y avait des anecdotes, parfois dans les introductions, dans les livres de recettes. Parce qu'elle a quand même publié à peu près quand même une trentaine de livres recettes. Alors, si on regarde attentivement l'introduction, c'est facile de trouver des infos ici et là et de tout tisser ensemble.
Mm-hmm.
Mais, alors, c'était quoi la question?
Mais je disais qu'il y avait des éléments incertains comme son
passage à la
Sorbonne.
Oui, alors tout de suite, j'ai remarqué que souvent, c'était écrit quelque part... Alors, parfois sur l'Internet, qu'elle a fait des études à la Sorbonne. Mais j'ai jamais...
Vous avez contacté, vous avez écrit.
Oui, alors, c'était marqué ici et là, mais alors, je me suis dit, mais alors, je suis journaliste, alors, je dois être certaine...
Mais oui.
Si je vais parler de ça dans l'histoire, alors, j'ai contacté... pas juste la Sorbonne, j'ai contacté plusieurs endroits en France, les archives nationales, parce que, par exemple, quand j'ai contacté la Sorbonne, mais alors, ils n'ont pas répondu tout de suite, ils ont dit, on n'a pas ces archives-là, parce que j'ai d'abord posé la question, est-ce qu'elle était étudiante à la Sorbonne pendant les années 20? Et alors, c'est très loin, n'est-ce pas? Et alors, ils m'ont dit, alors, vous devez passer par les archives nationales. Petit à petit, mais parfois, alors j'ai eu plusieurs réponses,
mm-hmm.
parce qu'en même temps, j'ai recherché le parcours d'Edouard de Pomian.
Oui, qui lui enseignait la cuisine.
En même temps, Jeanne Benoît a souvent dit, par exemple dans les entrevues à la radio, que lui était son professeur adoré. Et alors, elle n'a jamais dit qu'il a enseigné à la Sorbonne, mais ça avait l'air qu'elle adorait Dr. de Pommian. Elle a
oui,
fait
parce
des
que c'est
études
un médecin
à la Sorbonne.
Aussi.
Et alors, mais je me suis rendu compte tout de suite que lui n'a jamais enseigné à la Sorbonne. Alors, je me suis dit, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je sais que c'est très important le fait qu'elle a connu Édouard de Pommian, mais lui n'a jamais enseigné là et elle n'a jamais parlé d'autres professeurs. Alors, le mystère est commencé là.
Mm-hmm.
Alors, j'ai fait beaucoup de recherches par courriel avec des gens en France et parfois ça a pris assez longtemps. Je crois que par exemple, pour les archives nationales, je crois que ça a pris 4 mois. Pour avoir les réponses.
Ah oui.
Et alors, je me suis dit, ah, mais je comprends ce qui est arrivé. Alors, il y a des gens qui doivent faire quelque chose vite, vite, soit pour la télé, pour une revue, n'importe quoi. Alors, ils ne vont pas attendre 4 mois pour avoir les réponses. Alors, ils se sont dit, ah, OK, j'ai vu quelque part, elle a fait des études à la Sorbonne, oh, ça doit être vrai.
Et c'est l'information qui
ça
circule.
Ça doit être vrai.
Oui, ça doit être
parce
vrai.
Parce que j'ai vu ça 8 fois.
Ouais.
Mais alors, évidemment, maintenant, on sait que...
Il faut se méfier.
Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais merci, parce que maintenant, on a une œuvre de référence sur sa vie.
Oui. Vous n'inventez rien, sauf peut-être, j'allais dire, les lettres d'amour
oui.
qu'elle échange avec son deuxième mari, dont elle était éprise. Les deux étaient follement amoureux,
oui, oui.
contrairement
oui,
à son
oui.
premier mariage.
Oui.
Là, ben, vous le dites de toute façon que vous
oui.
avez pris des libertés. Là.
Et aussi pour les dialogues. Parce que, j'ai inventé les dialogues. Parce que, c'est important. Parce que je me souviens au début, quand j'ai contacté le Conseil des arts et lettres de Québec, j'ai parlé avec eux autres et ils ont dit, ah, alors vous êtes autrice de plusieurs livres documentaires sur des sujets scientifiques, historiques, toutes sortes de choses. Vous avez écrit beaucoup d'articles et alors pour des revues et pour des journaux, mais vous n'avez jamais écrit du fiction. Et j'ai dit non, j'ai jamais écrit du fiction. Mais ils ont dit c'est un peu compliqué parce que maintenant vous voulez faire du fiction. Et j'ai dit mais non. Ce serait basé sur des recherches.
Des faits réels.
Et alors, ils m'ont dit, basé sur des recherches, mais les dialogues, c'est des fictions parce qu'on ne saurait jamais qu'est-ce que le grand-père a dit, qu'est-ce que le mari a dit, qu'est-ce que son enfant a dit. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je n'ai jamais écrit du fiction. Mais j'avais envie d'avoir ce défi-là. Et finalement, je crois que c'est réussi.
Oui.
Et j'ai adoré ça. Alors, maintenant, je suis capable d'écrire des dialogues.
Alors, il y aura d'autres romans graphiques, d'autres?
J'espère.
Oui.
Oui, 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 j'espère.
Puis, Joanne Benoit, là, en faisant vos recherches, quelle influence diriez-vous qu'elle a eue sur les femmes, les hommes, les personnes
oui.
de son époque?
Mais c'était surtout des femmes,
ouais.
parce qu'à ce moment-là. Alors, je dirais qu'elle a commencé sa carrière dans les années 30. Alors,
elle est née en 1904.
Hein. Oui. Alors, il y avait beaucoup de défis. Alors, pendant les années 30, 40, 50, 60, 70, et même... Mais alors, elle travaillait jusqu'à son mort. Et d'abord, elle était toujours capable de se mettre à la place des ménagères québécoises. Alors, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle savait qu'il y avait du rationnement.
Mm-hmm.
Alors, c'était un défi assez important. Plus tard, elle s'est dit, OK, alors maintenant, ce serait intéressant de s'ouvrir davantage au monde. Alors, un peu comme René Lévesque, n'est-ce pas? Parce que Jeanne Benoît, René Lévesque, tous les deux sont dit, ah, mais le Québec, c'est important de connaître un peu le reste du monde parce que c'est intéressant.
Il y a une ouverture au monde.
Oui,
ouais.
Qu'est-ce qu'ils font en Chine? Qu'est-ce qu'ils mangent en Chine? Qu'est-ce qu'ils mangent en Grèce? Alors, pourquoi pas? Même si on n'a pas tous les ingrédients, on peut quand même faire quelques
oui.
essais. Et alors, elle a aidé, en fait, les ménagères à s'ouvrir, oui, au monde, aux autres mondes, et alors aux autres ingrédients
oui.
et autres techniques. Et
il y a eu l'Expo 67, mais il y a
oui,
aussi Joanne
oui,
Benoît.
Oui, oui.
Et
oui.
On parlait au début de l'entrevue de Stéphane Lemardelé.
Oui.
Vous l'avez trouvé de quelle façon?
Oui, alors une fois, alors je cherchais, évidemment, ça a pris du temps quand même. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient, mais qui étaient trop occupés. Alors, Mais un jour, je suis entrée dans une bibliothèque pas loin de nous et j'ai vu l'album sur Wim Wenders parce qu'il a, il a fait...
Cinéaste?
Oui, ça s'appelle « Storyboard » de Wim Wenders. C'est un livre que Stéphane a fait il y a quelques années parce qu'il a travaillé avec Wim Wenders. Et tout de suite, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est tellement beau! » J'adore les illustrations et surtout, j'adore les couleurs qu'il a choisies. Mm-hmm. Alors, je l'ai contacté et il m'a répondu le lendemain.
Oh.
Il m'a dit « J'habite à Sutton, je suis français, alors... » Je ne connaissais pas Jean-Benoît avant, mais maintenant, j'habite à Sutton.
Où Jean-Benoît et son mari ont habité.
Ils ont passé à peu près 20 ans là-bas. Alors, il a dit, bien sûr, j'ai entendu parler de Jean-Benoît. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on... Alors, je vais venir à Montréal bientôt. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour un dîner dans quelques semaines? Et j'ai dit, bien sûr. Et alors, à partir de ce moment-là, ça fonctionnait.
Et ça fonctionne très, très bien. D'ailleurs, la page couverture, ben, c'est un clin d'œil au livre de recettes tellement classique, l'encyclopédie de la cuisine canadienne de Joanne Benoît.
C'est ça.
Et on retrouve de ces couleurs-là, le orangé, verte de l'époque. Et c'était une rouquine. Je ne sais pas si c'était une rouquine naturelle, Joanne Benoît. Et on parlait de, au début, je disais, il n'y a pas eu recours à l'IA, mais il s'est indiqué qu'il a eu recours à une plaque de four et une planche à découper. Et donc, ça donne un aspect vraiment beau et naturel. Et il y a aussi des photos réelles.
Oui.
Donc, la documentariste n'est pas trop loin, là.
Oui. Alors, je dirais pour le IA, alors oui, Stéphane, il écrit beaucoup sur ça parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'éditeurs qui pensent à ce sujet-là.
Oui.
Mais lui, non, il est vraiment contre l'IA. Alors, pour lui, c'est comme presque une insulte de même parler de l'IA.
Il y a des illustrateurs qui vont l'utiliser, puis il y en a d'autres qui sont contre, dont M. Lemardelet.
Ouais. Oui, parce qu'il a son fierté, n'est-ce pas? Parce qu'il est un...
Son talent aussi.
Oui, il est très talentueux. En tout cas, alors, pour les archives photos, alors ça, c'est intéressant parce que ce n'était pas mon idée ni l'idée de Stéphane. C'était l'idée de Noémie Larouche, qui est l'éditrice à Édition
La Presse.
Et alors, évidemment, on a eu beaucoup de réunions. Et pendant une des réunions, elle m'a dit... elle savait que, évidemment, j'avais envoyé beaucoup, beaucoup de photos à Stéphane pour l'aider parce qu'il avait besoin des références photos pour faire ses dessins. Et alors, elle m'a dit, mais peut-être ce serait intéressant de comme incorporer quelques-uns de ces photos. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, parce que je les ai toutes chez moi dans un dossier, c'est facile. Et alors, ensuite, il fallait parler des droits, est-ce que ça coûtait, est-ce qu'on avait le budget et tout. Mais finalement, on a eu beaucoup, plus que la moitié gratuitement, alors c'était pas compliqué. Et c'est vrai que dès qu'on a fait un essai, on s'est dit, oh, oui, ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui remarquent ça et qui me disent, oh, mais c'est comme... On aime d'abord les planches, mais lorsqu'on voit les photos intégrées, on sait, ah oui, c'est une histoire vécue. On comprend que tout ça, c'est vraiment arrivé.
Un bel ouvrage BD, documenté, comme vous le disiez tantôt.
Oui.
Et Joanne Benoît disait, le passé, c'est le passé.
Oui.
Pensez-vous qu'elle cherchait à effacer certaines traces de sa vie?
Oui. Je sais que, par exemple, alors, comme vous le savez, si vous l'avez vu, alors,
les
relations... avec sa mère, se sont détériorées.
Oui.
Alors, ça, c'est assez triste. Et aussi, les relations avec ses frères. Elle avait, avec sa sœur, ça allait, mais avec ses frères, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle avait.
Elle s'entendait bien avec son père, son grand-père.
Oui, oui. Alors, avec son père, ça allait très bien. Mais alors, par exemple, j'ai parlé à un moment donné avec quelqu'un, qui a marié un de ses neveux, je pense.
Quelqu'un de la famille.
Oui, quelqu'un de la famille qui connaissait un peu Jean Benoît, et alors qui m'a dit il n'était jamais invité à Noirmouton. Mais pendant Jeanne...
La firme avait, là, où il vendait de la viande d'agneau.
Et Jeanne et Bernard ont habité là pendant une vingtaine d'années. Mm-hmm. C'était pas loin de Montréal. Toute la famille... Patenaude habitait dans les alentours de Montréal. Alors, c'était pas loin, Mais si, alors, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, beaucoup de gens qui étaient invités, tout le temps.
Ouais.
Sans cesse, n'est-ce pas, pour des repas. Mais la famille, presque pas invitée.
Ça a pris combien de temps à écrire, à concevoir et à réaliser cette œuvre, Joanne-Benoît, Megan?
Alors, du début à la fin, 6 ans.
6 ans.
Oui. Mais je n'ai pas travaillé tous les jours, évidemment. Et pendant pour ces 6 ans-là, évidemment, il y a beaucoup de moments où je devais attendre, par exemple, pour des approbations d'un éditeur ou bien approbation du Conseil des arts et lettres, ou bien, voilà.
Il y a eu beaucoup d'attentes là-dedans, ces 6 années-là.
Et il avait une pandémie, alors beaucoup d'obstacles, oui.
Et êtes-vous contente de la réception jusqu'à maintenant?
Oui, merci. Oui, en fait, j'ai été invitée à Radio-Canada à quelques reprises, et la presse, et Le Devoir, et alors...
Est-ce que vous allez dans les salons du livre aussi?
Oui. Ouais. Le Salon du livre à Québec, c'était au mois d'avril. Et c'était, oui, un succès fou. Je ne sais pas si vous connaissez Alison Van Russell.
Oui, oui, alors, la chroniqueuse culinaire.
On a été invités à faire une interview avec elle dans une cuisine qui est dans une bibliothèque. C'était un peu bizarre, mais oui, c'était vraiment sympathique. Et alors, à Québec, c'était...
C'est merveilleux. C'est
et à Montréal, il avait le Festival de bande dessinée de Montréal il y a juste quelques semaines. Oui, oui. Évidemment, on était là. On était bien.
Tant mieux. Et je me demandais, est-ce que vous avez la collection des livres de recettes de Joanne-Benoît à la maison?
Pas chez nous, mais quand j'ai grandi, alors ma mère avait l'encyclopédie. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des recettes d'elle que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà goûtées?
Oui. Alors, parce qu'à un moment donné, on avait pensé peut-être qu'on devrait inclure des recettes. Alors, moi...
Mais il y en a un peu quand même, là. On a la sauce hollandaise du professeur.
Oui.
La mais sauce alors, béarnaise aussi.
Mais on a pensé, alors moi et Stéphane et Noémie, tous les trois, on s'est dit, mais ça va être intéressant, il suffit de choisir quelques recettes, parce que évidemment on parle de quelqu'un qui parle juste la cuisine toute sa
vie. Ouais.
Et alors, j'ai essayé de faire quelques recettes. Par exemple, je me souviens d'une soupe et un dessert. Et alors, on s'est rendu compte, c'est un peu compliqué parce que d'abord, on consomme beaucoup moins de beurre et de crème et de choses-là qu'ils mangeaient dans les années 60.
Mais
et
juste alors, pour le plaisir de lire la recette, non?
Mais on s'est dit, on a peur parce que si les gens regardent les recettes et achètent des ingrédients et ensuite ils sont déçus, c'est comme un gros gaspillage. Alors on s'est dit, non, si quelqu'un a envie de faire ses recettes, il suffit d'aller chercher des livres de recettes.
Bien oui, vous m'avez donné envie là, d'acheter l'encyclopédie de la cuisine canadienne.
Oui.
Il est introuvable, il y a rupture de stock partout. J'espère qu'il va en avoir d'autres.
Sur eBay, c'est possible.
Oui, mais c'est quand même assez cher. Puis ils sont
Mais
en tout cas, je vais regarder. Je vais continuer ma recherche. Et il y a aussi, à un moment donné, elle fait à son mari celui qu'elle aimait, là, un sandwich foie de volaille et bacon.
Ça, oh là là!
c'est riche.
Et lui était très mince.
Oui!
Je comprends pas. Mais il fumait.
Elle l'enviait un peu. Oui,
il fumait. Ouais. C'est peut-être pour ça.
Ouais. Il était quoi, 13 ans, son cadet?
Oui. Mais il fumait et je crois que c'est pour ça qu'il restait mince. Parce qu'il mangeait beaucoup.
Oui, mais là, vous n'êtes pas en train d'inviter les gens à fumer pour rester mince. Là.
Non. Non, 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 non. Non, mais je sais qu'il adorait tout ce qui était très gras. Il mangeait des... Par exemple, pour le...
Mais il y a des corps comme ça qui mangent tout ce qu'ils veulent, puis on appelle ça des corps à vidange.
Mais pour l'encyclopédie, alors il y a aussi Abe Books, A-B-E, abebooks.com. Ça, c'est pour des livres rares.
Ah oui, d'accord. Ça,
si quelqu'un cherche...
Vous êtes bien aimable. Alors, Joanne-Benoît, j'invite les gens à se procurer. Megan Durnford, c'est l'autrice, et Stéphane Lemardelet, c'est l'illustrateur. Et bien, bonne suite. Y a-t-il un autre projet en quelques
Oui, j'attends des réponses.
Oui. OK. Bon, en attendant, on s'intéresse à Joanne-Benoît et à votre livre, votre ouvrage BD documenté.
Merci.
C'est tout pour aujourd'hui. Ça a passé vite. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain. Et demain, j'aurai la chance de recevoir le BDiste Michel Rabagliati. Il y a de la joie.